France Culture.
Bonjour le Book Club. Bonjour Constantin Alexandrakis. J'ai été happée par votre texte et par la richesse d'une enquête minutieuse. J'ai été intriguée aussi de lire enfin un homme qui ose et trouve le courage de questionner non seulement la portée de ses pensées invasives, mais aussi la capacité d'une société à les accueillir.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Cartographier, répartir dans l'espace et dans le temps, organiser, regarder, écouter, réfléchir, voilà ce que fait le livre au programme de votre book club aujourd'hui. Si entre autres choses la violence sexuelle engendre du chaos, alors la réponse littéraire et vitale boxe avec ce chaos. C'est peut-être pour cela qu'au lieu de sortir anéanti de la lecture du livre de Constantin Alexandrakis, on sort un peu plus armé qu'avant. Pourtant rien n'est résolu, loin de là, pas de happy end, seulement un narrateur, abusé dans la prime adolescence, père désormais, qui a partagé un bout de chemin, inconfortable quand il ne fut pas invivable, avec nous. L'hospitalité aux démons, c'est le titre de ce livre pour lequel il est notre invité. Vers 15h50, comme chaque lundi depuis 6 semaines, Diaty Diallo choisit pour nous un livre en écho avec l'actu aujourd'hui. Le peu de bonnes nouvelles concernant l'école lui fait ouvrir les livres d'Édouard Louis. Et en fin d'émission, vous le savez, on cherche de la musique dans les livres et on peut dire qu'il n'en manque pas dans celui de notre invité. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Constantin Alexandrakis.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre « L'hospitalité aux démons » a paru aux éditions Verticales. Soyez le bienvenu dans le Book Club, il sera au cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence par un portrait de nos invités en tant que lectrice et en tant que lecteur. Et il se trouve que le livre dont on va parler tout à l'heure fait aussi un petit peu cela, le portrait d'un narrateur en creux par les livres qu'il rencontre sur son chemin. Vous vous diriez qu'aujourd'hui, là, début 2025, vous êtes quoi comme lecteur ?
Je suis un lecteur dérangé, je dirais, par trop d'informations et par son téléphone, très concrètement. Du coup, je passe pas le temps que je voudrais, que j'aimerais passer à lire. Je perds trop de temps sur Internet, quoi, comme beaucoup de monde, je pense. Du coup, je lis moins que ce que j'aimerais. Et je sais pas, cet été, par exemple, j'étais un peu déconnecté et j'ai pu lire vraiment avec retrouver le plaisir de passer beaucoup de temps à lire et voilà, donc c'est un petit peu.
Et vous avez lu quoi cet été par exemple dans la longueur?
J'ai lu plein de livres différents. J'avais une liseuse, j'étais en voyage, du coup j'ai lu 8 ou 9 livres très différents. J'ai lu Maëlys de Carangal, c'est ça dont je me souviens. Qu'est-ce que j'ai lu cet été qui m'a
plutôt contemporain. Que de la
oui, du coup, j'ai lu 16h34, Plage de Manacora, je crois, de Philippe Janeda, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, enfin, ça doit être son meilleur, qui est excellent sur un grand feu. C'est-à-dire qu'il est poursuivi par un grand feu, lui et sa famille, et c'est un livre vraiment fort. Oui, j'ai plutôt lu des petits romans comme ça, enfin, qui se lisent bien, ce que je fais pas assez dans ma vie quotidienne. Voilà, je suis assez intermittent. Après, depuis longtemps, j'ai pas un rapport continu où je lis. Il y a des moments où je lis pas pendant des mois, voilà. Et du coup, après ça revient. Enfin, je lis pas de romans précisément. Je lis un peu tout le temps dans la vie. C'est-à-dire que je lis la boîte de céréales, par exemple. Je suis un peu tout le temps en train de lire, mais.
C'est ce qu'on dit des enfants parfois quand on raconte les débuts avec la lecture, les premières ouais. expériences de déchiffrement. Souvent, les personnes évoquent la boîte de céréales ou la bouteille ouais. de lait ou comment on appelle ça, les enseignes commerciales, etc. Ouais. Vous étiez ce genre d'enfant, vous ?
Oui, bah oui. Enfin. Oui, je lisais la boîte de céréales, ouais, clairement. Ouais. Mais il y a d'autres gens alors qui lisaient la boîte
bah
de céréales.
Oui, bien sûr,
sérieux.
Et qui le lisent encore avec sérieux. Ou alors la notice des médicaments, évidemment.
Ouais. C'est un drôle de lecture un peu automatique, mais c'est quand même de la lecture. Je sais pas comment dire. Ouais.
Vous avez l'impression que vous avez pris plaisir à cet apprentissage de la lecture?
Moi, énormément. J'adore. Enfin, c'est un grand. C'était l'endroit où j'étais bien, quand même, clairement. En lire des bouquins petits. Ça, c'était un plaisir, ouais.
Il y en avait autour de vous, des livres ?
Oui. Ma mère est scénariste, du coup, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, beaucoup de littérature américaine, et elle avait une belle petite collecte de bouquins. J'ai commencé par les grands. Après, c'est les bibliothèques vertes et tout, quoi. C'est le genre de truc où on se lance dans des grandes sagas. Bennett. Et mais ouais, je sais pas, c'était pas une ambiance intello, mais par contre
il y avait des livres, quoi.
Il y avait des livres et c'était fun, quoi, de lire. C'était pas sérieux.
Il y avait des gens autour de vous qui étaient en train de lire. Vous pouviez voir ça.
Bah oui, ma mère. Et puis mais dans un truc je sais pas comment dire, de plaisir, quoi. Pas c'est pas comme une quelqu'un qui aurait fait des études et qui doit lire des choses, ça lisait pas forcément des trucs très sérieux, quoi. Je sais pas, enfin moi c'était Stephen King par exemple à l'adolescence qui était que j'adorais lire, et puis on était quand même, je pense aujourd'hui, je sais pas pour les ados, je sais pas comment c'est, mais j'étais beaucoup moins parasité, quoi. Je pouvais passer tout le temps qu'on l'adolescence on traîne quand même beaucoup.
Oh oui.
Et du coup bah c'est voilà, c'est le principe. Et du coup pour et ça c'est idéal pour lire, quoi. Quand on a du temps pour traîner et pour lire. Donc ça se mariait bien. Aujourd'hui, je sais pas si avec les téléphones, c'est plus compliqué, je pense. Mais après, on lit beaucoup sur les téléphones aussi, hein, mais c'est pas le même. C'est plus fragmenté, quoi. Donc,
Le narrateur du livre que vous avez écrit, il parle de lectures très fondamentales pour lui, de moments de bascule, de moments très précis, des lectures après lesquelles il n'est plus le même, notamment, et peut-être qu'on y reviendra, Andrea Dworkin. Est-ce que vous vous souvenez, vous, dans votre parcours de lecteur, des moments où pas nécessairement d'ailleurs des textes théoriques comme il est question dans votre livre, mais je sais pas, des moments qui ont été vraiment des moments de bascule. Vous avez quelque chose s'est ouvert pour vous, de bien,
oui,
ou pas bien d'ailleurs.
Bah, j'ai un souvenir, mais je pense que c'est un malentendu. C'est sur Le soleil se lève aussi d'Hemingway, que j'ai pris comme une espèce d'invitation à vivre. Alors que c'est un livre extrêmement sombre, extrêmement cynique. Je l'ai lu trois fois. La troisième fois, j'ai compris que c'était extrêmement cynique et extrêmement sombre et pas du tout.
À quel âge?
Je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, quoi. Le truc, c'est que ça correspondait à peu près avec la sortie du foyer, quoi. Le moment où on est jeune adulte, on devient un peu indépendant, on peut faire la fête. Et du coup, ce bouquin m'a donné un allant, mais sur un malentendu, puisque le narrateur est impuissant, et c'est le centre du bouquin, et c'est dit en une phrase, et tout est dans le non-dit, et il a fallu que je bosse un peu pour comprendre. Et du coup, cette espèce d'élan de vie était assez... Enfin, en fait, j'avais juste envie de vivre, et puis le bouquin m'a servi de prétexte, quoi. C'est... Voilà. Peut-être que ça marche comme ça, des fois. Mais...
Et cette période-là, justement, où vous quittez chez vous, vous avez une vingtaine d'années, il y a de la place pour la lecture à ce moment-là dans votre vie?
Ouais, à fond. Ah, ça, je lisais à fond.
Et vous lisiez quoi à ce moment-là?
Je lisais un peu tout, n'importe quoi. Ouais. Comme j'ai pas fait un parcours littéraire, j'ai pas vraiment de... J'étais au Beaux-Arts où je faisais des études de dessin. Et par exemple, j'ai lu, alors que j'étais censé apprendre à dessiner, j'ai lu l'Iliade, j'ai lu l'Odyssée, j'ai pas lu l'Iliade. L'Odyssée avec beaucoup de sérieux parce que bah, je sais pas, je pensais, enfin je cherchais un truc.
Et, vous cherchiez quoi?
Bah la Grèce.
La Grèce.
Voilà, je pense chercher un truc un peu comme ça.
Enfin, la Grèce qui est présente d'ailleurs dans votre texte.
Oui, bien sûr. Puis bon, moi je suis d'origine grecque, du coup il y avait un truc que j'avais envie. De... Enfin, en fait, je faisais des études de dessin en étant mauvais en dessin et en lisant des bouquins, quoi. Du coup, c'était un peu décalé. Et du coup, je lisais un peu tout, enfin, ce que j'avais envie de lire, un peu comme ça, quoi, par le désir ou par, par exemple, j'ai lu l'histoire de l'art de Ernest Gombrich. J'ai lu en entier sur un week-end entier où je me faisais chier, où je sortais pas, et puis c'est un pavé comme ça. Je sais pas comment j'ai. Des fois, je me demande si je l'ai halluciné moi-même d'avoir lu ce gros machin entièrement, mais oui.
Ça a laissé des traces? Parce que parfois ça fait ça,
conscience,
les lectures.
Consciente, aucune, non. Ouais. Enfin, je
ça
crois pas
des,
si. Il y a
un truc
dont je me souviens, c'est que les Égyptiens changent, ont un art qui est le même pendant 3000 ans. Et ça, ça m'a quand même marqué. C'est-à-dire que ça bouge pas. Pendant 3000 ans, il y a aucune variation, aucun. Voilà, ça reste un.
Et vous auriez un autre moment comme ça, de choc de lecture. Vous dites de manière très belle, Hemingway, ça a été, même sur un livre sombre, le prétexte à porter mon désir de vie.
Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez en français, est-ce que vous vous souvenez d'un autre moment où ça aurait comme ça, je sais pas, où vous auriez peut-être changé de territoire? Il y a des moments où on se met à lire d'autres choses, par exemple.
Bah ouais, après il y a David Foster Wallace que je cite souvent et qui m'a là ça ouvre plus les portes sur la pratique de c'est-à-dire donner envie d'écrire, quoi, de se dire ah ouais, mais ça je devrais pouvoir y arriver, à peu près, hein. Ces reportages.
Pourquoi avec cet auteur-là, qui est aussi un auteur qu'on peut rapprocher de la non-fiction, du mélange entre un élan journalistique et la littérature?
Alors pour moi, ces romans, je les ai, Infinite Jest, tout ça, j'ai pas lu. Donc c'est vraiment ces reportages, du coup, qui sont, donc c'est vraiment de la non-fiction au sens propre. Et je sais pas, ça m'a parlé parce que c'est pas que, tant que je trouvais ça facile à imiter ou je me suis senti à l'aise, quoi. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien de faire ça. J'ai envie de faire la même chose, mais d'une manière comme on copie un peu des idoles et puis qu'on...
Ça vous invitait, quoi.
Ouais, voilà. Et enfin, c'est pas tant de copier que de... En fait, est-ce qu'il y a besoin que ce soit que... Pourquoi lui, il avait l'air d'avoir d'autres choses à faire. Donc moi, je peux en faire d'autres, des reportages. Il y a plein d'endroits où on peut aller étudier des choses à sa manière, à cette manière-là, très hybride. Et c'est ouvert. Et il a pas un copyright sur une manière d'aborder les choses, quoi. Enfin, où il y a pas de, on est libre, quoi, pour ça. Et du coup, moi, je me suis senti bien, un peu. Je sais pas, c'est comme si je rencontrais quelqu'un qui fait des chaises d'une certaine manière, et puis que je me disais, ah, tiens, ah ouais, moi, je vais faire des, ah, elles sont trop bien ces chaises. Puis lui, il partait faire des canapés, et puis moi, je me disais, ah bah tiens, je vais continuer à faire ces chaises parce qu'elles sont bien, par exemple.
Je sais pas, c'est un et c'est à ce moment-là que vous êtes mis à écrire, justement, par exemple. Est-ce que ce qu'a peu, ouvert
oui.
cet espace-là
bah oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est un peu ça. Ça m'a un peu lancé sur le truc de pouvoir à la fois parler de soi et parler du monde, entre guillemets. D'être comme ça, une espèce de. Typiquement, du reportage, c'est bah, venez avec moi, suivez-moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu, quoi. C'est ce qui est un c'est la base, quoi, de comme ça qu'on construit le reportage, je crois.
Et c'est arrivé beaucoup, Constantin Alexandra, qu'est-ce que des lectures vous mettent sur la piste de l'écriture pour vous ?
Moi, franchement, je crois que je pique pas mal de choses et je lis beaucoup avec un état d'esprit un peu de voleur, quoi. Je peux pas trop me cacher. Du coup, je me dis, ah, tiens, j'ai du mal à pas lire pour pas m'en servir et c'est toujours un peu du taf quand même.
Donc vous vous dites quoi ? Ah tiens, comment c'est fabriqué ? Ah tiens, cet effet de style ? Ah tiens, cette structure ? Tiens, ce ton ?
C'est de la digestion, quoi. On le mange et puis après, et ça nous reste et ça nous donne de l'énergie, ça donne des protéines, des sédiments. Enfin, c'est
une métaphore. Et alors, est-ce que vous pensez à une œuvre qui aurait été spécifiquement nourricière pour vous ? Vraiment un truc où vous avez un endroit littéraire où vous avez vraiment trouvé à boire et à manger, comme on dit ?
Bah. Une seule, c'est difficile, mais oui. Il y a beaucoup de choses. Je sais pas, il y a beaucoup. Après, je vous dis, moi, les reportages de David Foster Wallace, très modestement, c'est un peu ça le plus. Si je dois prendre un truc vraiment.
Meilleur frigo.
Ouais,
meilleur
voilà. Après, maintenant, il y a plein d'autres choses, quoi. Du coup, je sais pas, le travail d'Alexievitch. Mais ça, par contre, c'est tellement.
C'est marrant, je pensais à elle. Au moment où je vous ai posé la question, je pensais à elle. Je sais pas pourquoi.
Oui, mais moi, par contre, je suis pas... là, ça me dépasse un peu. Enfin, là, c'est un autre level. Pour moi, elle est à un niveau.
Mais ça n'empêche pas de donner de la liberté ou d'inviter des formes. Svetlana Alexievitch, donc on rappelle, prix Nobel de littérature, qui a beaucoup pratiqué l'entretien et fait rentrer, pour le dire très, 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 très vite, la forme du témoignage et de la parole orale dans sa littérature. Voilà. Je le dis vraiment très vite.
Et donc, cette magie-là, ce qu'elle fait, je ne sais pas comment elle fait ça. Voilà. Je pense bien incapable de le faire. Enfin, ça me semble tellement, c'est tellement puissant, fort, incroyable. Là, je suis un peu, je me sens tout petit, quoi. Quand je vois ça,
c'est-à-dire au lieu de vous donner de l'élan,
ça donne de l'élan, c'est hyper puissant et tout ça. Mais par contre, je pourrais pas. Je me dis pas. Ah ouais, tiens, ça, je peux le faire. Allons-y, quoi. Enfin, non. Là, c'est trop. Il y a aussi la confrontation avec un. Avec les autres, quoi, c'est-à-dire qu'elle reprend la parole des autres pour la réécrire, et ça, moi, je suis vachement gêné pour faire ça. Voilà, c'est un boulot qui me dépasse à plein de niveaux, mais j'adore. Voilà.
Est-ce qu'il y a, et ce sera la dernière question de ce questionnaire lecture, est-ce qu'il y a une œuvre avec laquelle vous auriez rendez-vous, Constantin Alexandra? Je vais devoir dire votre nom de temps en temps, qui est un très beau nom, mais qu'il faut bien articuler. Un peu... Alors je vais le faire de temps en temps en prenant mon élan. Est-ce qu'il y a une œuvre avec laquelle vous auriez rendez-vous? Vous dites un jour j'irai, un jour je lirai ça, j'espère.
Et bah, peut-être l'intégrale de Léon Blois. c'est à ça que je pense là, mais et c'est un peu bizarre. C'est un auteur qui n'est pas très connu. Non. Léon Blois, c'est un auteur du 19e siècle. Qui est une espèce de catholique un peu qui est complètement fou mais qui a une langue incroyable, qui a écrit un livre qui s'appelle, moi le seul que j'ai lu pour l'instant, c'est La Femme Pauvre, c'est une langue magnifique, c'est et du coup j'en ai lu qu'un Et je me dis que ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'en lisant ça, c'est pas comme faire de la musculation, mais on sort de là. C'est d'un français qui est incroyable. Enfin, c'est une langue qui est vraiment, vraiment.
Et on sort de là comment?
Eh ben, plus musclé. c'est complètement bête. Ou plus fort, ou plus. Enfin, je veux dire. Typiquement, ouais, il y a ce truc dans lire, c'est écrire, quoi. Quand on lit des gens qui sont comme ça, qui ont un vocabulaire colossal et une maîtrise de la langue qui est incroyable, et c'est pas traduit, c'est vraiment du français. Du coup, il y a un rapport direct. Je pense que ça fait travailler fort, quoi. Après, c'est loin de nous, mais voilà.
On va parler de votre livre tout de suite après cette chanson reprise par Prince, musicien préféré de votre narrateur. La version est extraite de l'album posthume Piano and Microphone. Et la chanson est un gospel qui s'appelle Mary, Don't You Weep.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Violence colossale, aujourd'hui dans votre Book Club, et réponse pluridimensionnelle. Je parle rarement chiffres ici, mais le nombre fait sens pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Le livre cite des chiffres au milieu de quantités d'autres outils pour penser. Donc ce sont 3,9 millions de femmes et 1,5 million d'hommes qui ont subi des violences sexuelles avant 18 ans, soit 5,4 millions de personnes. C'est colossal. Ce n'est pas l'histoire d'un ou d'une seule. Ou pour le dire autrement, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France chaque année. Ce n'est pas une petite histoire de son côté. Et c'est tout ce que parvient à fabriquer littérairement votre livre, Constantin Alexandrakis, un texte qui n'est pas un roman sur une terrible histoire d'enfant abusé, comme l'écrit Neige Sino dans sa préface. C'est autre chose, une autre dimension, une autre spatialité. C'est la traversée pour une reconnaissance du grand autre en soi, une reconnaissance des forces de destruction à l'œuvre, dehors comme dedans, et même si ce n'est pas pareil. C'est le récit d'un interminable combat. L'hospitalité aux démons a paru aux éditions Verticales, et c'est votre deuxième livre. On en parle ensemble dans cette deuxième partie du Book Club. Dans un premier temps, le texte nous attrape par sa description intelligente, drôle, implacable aussi, de la paternité, de ce à quoi votre narrateur est confronté en ayant une fille. On va écouter, c'est le tout début de votre livre.
« Coincé dans une voiture surnommée Loki, l'artisan de malheur, le diffamateur des dieux, tour à tour moustique, cheval ou saumon, on quitte la maison scientifique, encore un de ces musées construits sur d'anciens abattoirs. C'est Noël. On habite les brumes du Grand Nord, autrement dit le monde norrois, autrement dit le royaume du Danemark, autrement dit nulle part. L'enfant unique, une petite fille, exige depuis une demi-heure une tétine rouge, rapportée pour la blague de Saint-Pétersbourg, une tétine qui imite une sorte de dentier monstrueux, bouche de monstre aux dents pointues. Mais impossible de retrouver la tétine gore dans la bagnole exiguë qui porte le nom d'un dieu retors, déclencheur de l'apocalypse, cette foutue tétine rouge. Et la petite fille hurle « ma tétine » pendant 5 minutes. « Ma tétine, ma tétine, ma tétine » sans discontinuer. « Ma tétine, ma tétine, ma tétine, ma tétine » et le père se glace. Cette petite fille, la sienne, c'est moins qu'une personne, à peine une chose, ma tétine, une chose qu'il s'agit de faire taire, de neutraliser. Des phrases sortent de l'enclos de ses dents, les dents du père, méchantes, méprisantes, blessantes. Salomé, la mère de cette famille, essaye de temporiser. Mais jusqu'au soir, une rancune tenace, rancune tenace, rancune tenace. La colère, trop puissante pour une simple tétine, incrustée comme par un jeu de miroir, dans le ventre du père. Le lendemain, sa fille le tire du lit à 6 heures du matin. Et alors qu'à 9, il se rendort pendant qu'elle joue juste à côté, bim, elle lui jette un livre, « Les aventures de la petite citrouille » en pleine tronche. Il l'attrape par le col, hésite une seconde et décide de lui faire peur. Il l'attrape par le col et lui hurle dessus. Sa fille a 2 ans et demi, elle a peur, et lui aussi.
Il y a beaucoup de choses qui sont déjà contenues dans ce début de livre, Constantin Alexandrakis. On l'entend, c'est très dense, mais ça donne aussi plein de pistes, plein de géographie, puisqu'il sera tellement question de géographie dans ce texte-là. Mais je voudrais commencer par la plus commune, peut-être la plus drôle, celle que vous parvenez à partager d'emblée, avant peut-être d'aller sur des territoires moins partageables, qui est les frontières de la folie, de la violence qu'on peut expérimenter en étant parent. Il me semble que vous le faites d'une manière singulière avant même qu'on aille sur le territoire d'un narrateur qui a été abusé de 9 à 13 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait d'abord l'expérience de la parentalité qui était décrite.
Oui, dans le sens où ce sera un sujet du ouais. livre aussi, oui,
ouais.
oui. Ouais. Bah oui, c'en est un. C'est un sujet du livre aussi, et pas des moindres. mais c'est-à-dire que c'est lié aussi. Enfin, comment dire, on est poussé un peu dans ses retranchements quand on affronte un nourrisson. Et du coup, ça va toucher nos limites, et je pense que c'est là où le lien se fait. Mais il y a plein de questions qui sont, comment dire, par exemple, la question de la survie, qui est un peu dans mon bouquin. Il y a plusieurs moments où on parle de ça, de la survie ou du survivalisme. Et la question de la survie quand on s'occupe d'un nourrisson, c'est une question en fait qui est extrêmement présente et qui moi, le narrateur, il n'est pas du tout préparé à ça, et ça va faire des échos étranges du type, ça va le pousser à regarder Rambo. Bon, c'est-à-dire que c'est pas très clair que cette question de la survie, ça va mettre du temps à ce que ça lui monte à la conscience. C'est-à-dire qu'il se dit, ah, mais c'est normal que je pense à la survie puisque, en fait, tous les jours, je me demande comment faire pour que cet enfant vive. Enfin, où je suis pris dans des... Il y a un moment où le narrateur enlève un bout de verre de la bouche de son enfant, le sort du bain quand elle passe... Elle manque pas de se noyer, mais ça a juste une petite glissade, ça va très très vite, quoi. Mmh. Et là, moi, je parle à d'autres gens qui sont parents et qui vivent cette expérience-là. C'est une expérience de... La question de la survie et la parentalité, bizarrement, en tout cas dans la petite enfance... Et ben, elle est là, elle se pose, et faut savoir gérer ça. Et quand on est un petit peu flippé, un petit peu nerveux, ça fait des grosses montagnes, quoi. C'est une grosse responsabilité, quand même, la vie de quelqu'un.
Mais moi, ce que je trouve assez beau dans ce texte-là, c'est que je trouve que ça met en exergue l'idée que c'est pas que quand on est un peu flippé ou un petit peu nerveux. Le texte se termine sur la possibilité d'accueillir l'idée de la mort, l'idée de l'autre, l'idée de l'altérité. Ça ne gomme pas la spécificité de l'expérience que ce narrateur a rencontrée entre 9 et 13 ans, et on va y venir.
Ouais.
Mais simplement, je trouve que ça, d'emblée, ça va vers l'universalité que, de toute façon, en fait, c'est sidérant, c'est vertigineux de composer avec l'idée de sa propre mort et de la mort d'un petit être dont on doit s'occuper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je trouve que d'emblée, ce texte, il se branche à ce qui nous relie les uns les autres, quoi.
Eh ben, tant mieux. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres.
En effet.
Peut-être, et encore, parce que...
Ou ils le disent pas,
voilà. Ça reste mystérieux, c'est un mystère. Parce que c'est encore des moments de la vie qui sont très peu discutés, je pense aussi, ou très difficiles à discuter, parce que justement, on a été repoussé dans ses retranchements, on est très seul aussi, on vit pas ça collectivement, très peu. Il y a pas de... C'est un moment où on est quand même un peu livré à soi-même, quoi. On a fait un enfant, et puis maintenant, il faut se démerder, quoi. Il y a un petit peu comme ça, je trouve. Il y a pas beaucoup de collectif, quoi, pour...
Une des choses, je trouve, qu'on se dit en lisant votre texte, c'est que c'est un peu inédit la manière dont c'est raconté, peut-être encore plus par un narrateur masculin, par un narrateur père.
Ouais.
Ah, vas-y,
bah,
Marie, tu peux y aller. D'autant plus qu'il intègre la manière dont il est aussi agi parce que c'est que d'être un homme, d'être du côté masculin de la parentalité et que ça le travaille. On entend aussi dès le début de ce texte l'idée d'une géographie un peu lointaine. C'est un royaume nordique. On entendra aussi la façon dont il se désigne, ce narrateur, par une dark tentative du bon père de famille, donc à la troisième personne. Comment vous en êtes arrivé à cet éloignement-là? Tout confondu, hein, troisième personne, territoire nordique.
Alors, il n'y a pas vraiment de décision, de stratégie à l'avance. C'est que les choses se font et puis après, on réfléchit. Hein. C'est un peu comme ça, moi, que ça procède. Et puis, du coup, c'est une mise à distance, quoi. C'est assez simple, hein. C'est assez basique. C'est une manière de mettre les choses à distance parce qu'elles sont très intenses et du coup ça brûle. Donc on essaye de les refroidir un peu en les mettant à distance, je pense. Et puis après, il y a c'est un peu un décor de carton-pâte, le Danemark. Donc il y a un côté un peu comique et là, par exemple, la musique que vous avez mise, c'est parfait.
C'est un peu flippant, un peu drôle.
Un peu Carpenter, un peu Chucky.
Voilà, c'est ça qu'on a cherché.
C'est parfait.
C'est exactement ce qu'on s'est dit en la cherchant. On s'est dit un peu flippant, un peu drôle.
Voilà.
Qui est vraiment l'entreprise, il me semble, de votre livre. L'autre est l'idée de la cartographie, de la topographie, l'idée de faire des listes aussi. Moi, j'y ai vu une tentative de mettre de l'ordre là où il y a beaucoup de chaos, là où il y a beaucoup de choses qui assaillent, qui emprisonnent. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'écriture?
Une volonté de mettre un... Oui, d'essayer de comprendre des choses, oui, clairement. Enfin, d'essayer de s'affronter, de déplier, comme on dit en anglais, de mettre un peu à plat des choses qui sont, qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi. Du coup,
ce serait quoi les grandes questions si on les énumérait? Les grandes questions qu'essaye de déplier ce livre?
J'aurais bien du mal à les résumer. Enfin, moi, il y a la question de la vengeance, qui me semble très centrale.
C'est-à-dire pourquoi on voudrait se venger ou comment faire pour ne pas se venger?
Comment faire pour ne pas... À quoi bon? Comment se débarrasser de ce désir de vengeance? Et en même temps, comment faire justice? Ou obtenir justice? Bon, c'est un gros truc, quoi, quand même. Du coup, la question de la vengeance et de la violence et de la justice, ça s'articule un peu... Ça, c'est assez central. Après, il y a des questions. Qu'est-ce que c'est que la différence entre agresseur et victime
Et les puissances d'identification mortifères qui sont à l'œuvre, que vous décrivez très bien, c'est-à-dire la manière dont, paradoxalement, ce narrateur qui a été abusé de 9 à 13 ans a du mal à se départir d'une forme de fidélité ou de loyauté ou d'identification à celui qui l'a agressé. J'ai dit les choses correctement.
Ouais, c'est un peu. Bah, je pense que c'est un peu ça. C'est très difficile à décrire et je suis pas sûr d'y arriver pleinement. Je pense que c'est un sujet, ça. Et qui est vaste et bien compliqué.
De comment le décrire, vous voulez dire?
Oui, de comment. Moi, effectivement, ce que vous avez dit, c'est très juste. C'est à peu près. Je dis à peu près la même chose et en même temps. C'est très mou, quoi, comme matériau, là. Je sais pas trop. Est-ce que ça saisit vraiment quelque chose? Mais il y a bien un truc de. Quand. Je pense que quand on est masculin, un homme, comme on dit, c'est plus difficile de se. Peut-être plus difficile, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile de se défaire du discours pédophilique, mais je sais pas. Enfin, c'est le terme que j'emploie dans le livre, dans le sens où. Enfin, quand on est un homme, peut-être qu'on se voit plus facilement comme un agresseur et qu'on a, on est. Après, c'est des explications un peu sociaux, machin, mais on est un petit peu plus autorisé, on a plus d'accès à la violence, par exemple. Taper dans les murs, faire des choses d'hommes, entre guillemets, qui sont plus autorisées pour un homme. Du coup, il y a des trucs comme ça qui sont, même si on ne s'est pas autorisé, mais c'est quand même plus autorisé.
Parce que ce narrateur, il se débat avec deux choses. Le fait d'avoir été, d'une part, une victime dans sa prime adolescence et d'autre part, d'être un homme pris dans une fabrique du patriarcat, de la domination masculine. Et il doit se débattre et voilà. Désarticuler les deux grandes choses, quoi. On pourrait dire que c'est un de ses chantiers.
Voilà, ça fait un peu ça. Sans non plus. Je sais pas, c'est un pratiquant d'arts martiaux, ce narrateur, et puis il aime ça et il continue. Mmh. Et sans non plus, c'est une déconstruction, mais qui est pas
sans déserter,
qui est pas une destruction, quoi. Mmh. C'est pas l'idée, c'est pas de complètement changer, de devenir quelqu'un d'autre absolu. Enfin, c'est un processus, quoi. Du coup, il y a des choses typiquement. Faire peur à son enfant, on n'a pas envie de faire ça, quoi. On veut pas faire ça. Donc c'est pas un truc. Et ce qui tombe dessus quand tu deviens père un peu, c'est effectivement le père, le patriarcat. Du coup, l'éducation à coups de claque et tout ça, c'est là, quoi. Je sais pas comment dire. Et du coup, on n'a pas envie de faire ça. Et ça, faut se débattre avec ça, ouais.
Situation d'autant plus paradoxale que le narrateur n'a pas connu, vécu avec son père biologique et qu'il traverse aussi l'idée que le patriarcat, c'est aussi l'absence des pères.
Ouais.
Et qu'il a eu, lui, deux modèles de figures paternelles, l'un pédophile et l'autre magnifique mais violent d'une certaine manière.
Ouais.
Et qui se débat aussi avec l'impossibilité de se raccrocher à des modèle qui serait positif et qui l'aiderait.
Oui, voilà, c'est exact. Un modèle positif de père, effectivement, c'est pas facile à trouver, quoi. Je pense, enfin, moi, je. Ou peut-être qu'on est. Là, après, moi, autour de moi, j'ai beaucoup de copains qui s'occupent de leur gamin. Hein, et beaucoup de copains qui n'ont pas de père, d'ailleurs, qui s'occupent de leur môme. Du coup, il y a des choses qui se passent, je pense. Peut-être que c'est un peu une figure à inventer, qu'on peut le faire aujourd'hui. En ayant tous les outils qu'on a à notre disposition de. Des constructions, tout ça.
Votre livre, il est préfacé par Neige Sino. Neige Sino était venue ici au Book Club pour parler de son livre « Triste tigre ». Elle parlait de l'inceste subi par elle comme une violence faite au langage et elle revient un peu plus en précision sur cette notion-là.
Il y a une duplicité, pour moi, du langage. Et du coup, je pense que la question de la vérité, elle est aussi très double. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a l'air sincère qu'on dit la vérité. Et je suis toujours très consciente que tout ce qu'on dit, c'est une construction, puisque j'ai été dans une position de manipulation extrême. Un enfant à qui on fait croire des choses, c'est une personne qui est manipulée au point où elle intègre cette manipulation dans sa structure. Je me suis construite dans une manipulation et j'ai dû, en grandissant, déconstruire petit à petit ça. Donc j'ai pas vraiment confiance dans le langage. Je peux jamais m'abandonner. Et en même temps, la lecture, c'est la lumière la plus grande que j'ai eue dans ma vie. Donc, je vais vers là. Il y a un truc un peu étrange d'une méfiance et en même temps d'un désir très grand d'aller dans ce monde-là, celui où on construit quelque chose dans le langage.
construire quelque chose dans le langage, c'est ce que faisait avec brio Nashino dans Triste Tigre. Et il y a aussi l'idée de la recherche d'une forme dans votre livre, Constantin Alexandrakis, quelque chose qui serait inventé, inventer des territoires, inventer des typographies, inventer des termes, comme quoi, comme une réponse à quoi?
Ben moi, cet extrait de là que vous avez passé, Nashino, c'est quelque chose qui me parle énormément, notamment parce que moi, je crois aussi qu'il y a, mais je pense que c'est un fait objectif, qu'il n'y a pas de vérité dans le langage et que c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir sur ce qu'on a dit et toujours démêler à l'infini. Voilà. Et du coup, l'invention des formes, tout ça, c'est interminable parce que c'est notre travail, quoi. On doit toujours revenir sur le langage entre guillemets ou sur ce qu'on a dit, quoi, très concrètement. C'est on le voit bien en politique,
mais revenir comme retravailler infiniment, comme ouais. Le fameux combat interminable dont vous parlez, ça fait partie du combat.
Oui, c'est un combat, ou c'est une oui, c'est un combat dans le sens où c'est un travail aussi, enfin c'est interminable, c'est ce démêlement, je sais pas comment dire, cette action de revenir sur les choses et d'essayer de les comprendre, elle est infinie. Et le langage mettra pas de fin à ça, il y a pas de moyen de saisir les choses une bonne fois pour toutes. Enfin, peut-être pour un lavabo, c'est un lavabo, d'accord. Il y a des choses qui sont plus compliquées, qui évoluent de manière plus, enfin qu'on a plus de mal à saisir et sur lequel faut plus travailler. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là.
Le point aussi sur lequel insistait Nashino, c'est l'idée que dans la violence sexuelle qu'elle avait subie elle de la part de son beau-père, il y avait aussi une violence faite au langage, au sens où les mots étaient pris et utilisés pour dire d'autres choses que ce qu'ils sont censés signifier, le mot amour, le mot tendresse, par exemple. Oui. Et c'est quelque chose sur lequel vous revenez, vous, notamment en commentant par exemple votre lecture de Lolita de Nabokov, en montrant que il y a une perversion qui est aussi dans le langage, aussi dans les mots qui sont utilisés pour dire ou ne pas dire les violences sexuelles perpétrées. Vous inventez des mots, vous inventez des, comme j'ai l'impression, comme pour répondre à cette perversion du langage.
Et c'est dedans, c'est depuis la perversion du langage, je dirais, parce que moi je, par exemple, pour me servir, je me sers de métis pour analyser Lolita, un truc qui a été découvert par Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne dans les années 70, mais qui est une forme, un état d'esprit qu'on trouve en Grèce ancienne et qui, disons, c'est la pensée rusée. Et qui rejoint beaucoup la pensée du pervers aussi. C'est quelque chose qui a beaucoup de liens, et c'est le sophiste, par exemple. Et tordre les mots et leur faire dire leur contraire, c'est, je sais pas, Trump, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et donc c'est une. Moi, je me sers de cet outil conceptuel. Je sais pas si c'est pas vraiment un concept, métis. C'est plus un état d'esprit qui traverse Ulysse, c'est l'homme à la métisse, c'est l'homme aux mille ruses. Donc c'est le menteur, le malin, c'est quand on est dans un contexte mouvant, ambigu, incertain, comment faire pour traverser ce contexte et trouver une solution, trouver une direction, quoi, en gros. C'est un peu un jeu de petit malin. Je sais pas si je vous...
Non, je vous suis, voilà.
Et il y a cette question du langage, c'est-à-dire que métisse, c'est pas la science, c'est pas un moment où on va... pouvoir arrêter les choses en disant un triangle rectangle, c'est un triangle rectangle. C'est le théorème de Pythagore, c'est pas ça. C'est un autre état d'esprit qui va être plus dans la torsion des choses et dans l'habileté. C'est toute la question technique et tout ça. Donc je me sers un peu de tout ce gros paquet.
Mais pour le retourner ?
Là, je m'en sers pour analyser Humber, ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire que ça marche.
C'est,
voilà, voilà, pardon. Et ça marche. J'étais surpris moi-même de voir à quel point c'était pratique comme angle pour aborder la psyché perverse, ou pour le dire comme ça.
Et vous diriez, Constantin Alexandrakis, que ce livre, il cherche, puisque vous dites ça n'est pas la loi, ça n'est pas la science, ça n'est rien de définitif. Vous diriez que vous écrivez pour chercher ça, parce que j'ai pas l'impression que votre livre, il cherche non plus que des endroits où les choses sont claires, définitives et scientifiques. Ah non. Votre livre, il embrasse aussi les endroits troubles, les endroits difficiles, ouais. Les endroits où on est traversé par des choses contradictoires, et il y va même j'allais dire franco et avec courage.
Métis, c'est la logique de l'ambiguïté, c'est ça, la métis. C'est-à-dire que c'est pas soit c'est vrai, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est toujours un peu vrai, toujours un peu faux. Et moi, je suis à l'intérieur de ça, quoi. Mais je cherche la vérité. Du coup, c'est très bizarre.
Mais vous cherchez quelle vérité, à quel propos?
J'essaie de trouver des choses qui soient vraies, quoi. Mais bon, on se perd beaucoup et puis ça s'échappe un peu tout le temps, quoi, la vérité. Et notamment parce qu'elle est souvent double, pour reprendre les mots de Nechino, ou souvent duel. Et parfois, la vérité, c'est qu'elle est double. Vous voyez ce que je veux dire? C'est accepter ça aussi. Du coup, je sais pas si c'est...
C'est très clair.
C'est beaucoup de retournements et de... C'est beaucoup de retournements.
Il y a une partie de votre texte qui nous emmène, pas que, mais une partie de votre texte qui nous emmène dans ce labyrinthe-là. C'est-à-dire qu'il a à la fois comme une sorte d'élan de clarification, de topographie, de classement, de liste. Et il y a des moments où on plonge avec le narrateur dans ce tourbillon-là. Par exemple, dans ce tourbillon de questions.
Ce soir embrumé de décembre, le père patauge dans la honte et la culpabilité. Après Flavie Flamand, le voilà parti se chercher dans la biographie de Tracy Lords, entré dans le skin trade, le commerce des peaux, à 14 ans. Lors de ses premières séances photo nues, elle croit voir son beau-père qui se branle dans l'assistance. Celui qui vient la tripoter tous les soirs dans son sommeil et qui l'a mise sur ce plan thune pour lui permettre de payer son avortement. Il y a un doute dans sa tête, sur ses viols, la nuit, par ce beau-père. Un doute, dans l'ombre, sur ce même type qui se branle, au fond de la salle remplie d'adultes qu'elle subjugue. C'est normal, ça ? Le père connaît ce doute. Il a passé la moitié de sa vie à se demander si c'était normal, à 12 ans, de se taper une queue avec un type de 30. Cette évidence pas si évidente, cet appel au canonique, au robuste, à l'ordonné, ce que scande le cœur des victimes depuis des années, le père l'a déjà pensé sous des formes similaires, dans sa cuisine, au lit, en se brossant les dents, en mettant son manteau. C'est normal ? Il l'a pensé en faisant ses lacets, il l'a pensé le soir, c'est pas normal, sous la douche, le matin, aux chiottes, dans sa voiture, au péage, au McDo, dans une réunion avec 200 personnes en survie administrative, en marchant dans la rue, en achetant du pain, en écoutant le dernier album de Davido, en pleine soirée, alors qu'il était juste en train de danser. C'est normal ? Il l'a pensé. Refuser son éducation pédophilique en buvant un Sprite, c'est pas normal. Il l'a pensé, dire non, ça va pas, pas possible, des années plus tard, en mangeant un grec. Non, 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 dans l'escalier, en commandant une pizza. Il l'a pensé à la piscine, à cheval, dans le train, dans l'avion, sur son vélo, ses rollers, son skate, ses baskets à lumière. Pas normal.
Un extrait de votre texte « L'hospitalité aux démons », Constantin Alexandrakis. On entend à la fois par le procédé de la liste, de l'accumulation, la manière dont la pensée du narrateur est colonisée par les questions, mais aussi la façon dont ce qu'on disait, c'est-à-dire la vérité double, le trouble, le doute sur ce qui est arrivé à son corps, ce qui est arrivé à sa vie, fait que tout est tout le temps mouvant. Vous parlez de matière molle tout à l'heure, mais c'est aussi ça que traverse votre texte. La difficulté à peut-être penser les limites entre le vrai et le faux, entre ce qui est arrivé et pas arrivé.
Oui, je vous disais, le métis, ça s'exerce dans un contexte mouvant, incertain et ambigu. Et il y a l'idée que le même peut agir sur le même. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pensée mouvante, incertaine et ambiguë pour se débrouiller dans ce contexte-là. C'est un jeu de miroir, quoi. Et quand on parle de combat, c'est juste aussi parce que
c'est l'usage de la force.
Ça me touche, tu te touches, tu me touches, ça touche, tu touches. C'est un standard de boxe. Et c'est aussi l'escalade de la violence. Enfin, je veux dire, c'est cette dynamique-là, ces mécaniques-là, qui sont à l'œuvre. Et du coup, l'effet de liste, enfin les listes, c'est assez pratique pour faire sentir ces mouvements, je crois, voilà.
Oui, il y a quelque chose qui, en effet, comme on le disait au tout départ, avec l'expérience de la paternité, de la parentalité, la manière d'être plongé soi-même en tant que lecteur et lectrice dans le doute, dans le continent presque visqueux du doute, est une expérience qu'on fait de la lecture. Quand je disais, vous allez sur des terrains mouvants avec courage, le narrateur a une expérience terrible où il va chercher de l'aide auprès d'une structure, et confiant les pensées violentes par lesquelles il est assailli, les phobies d'impulsion, les images qui sont des images intrusives, il se voit lui-même accusé et plane sur lui la possibilité, en tout cas à minima, d'une enquête. C'est un terrain difficile parce que vous allez sur le terrain des prétendants aidantes, Constantin Alexandrakis. Est-ce que vous avez hésité à toucher à cet endroit-là ?
Oui. Oui, j'ai hésité parce que j'ai pas envie de mettre marquer un point contre mon camp, quoi.
Ouais.
J'ai hésité pour pas nuire.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous y alliez ?
Bah, je pense que c'est important. Au contraire, moi, je pense qu'il faut qu'on avance et qu'il y a des questions qui doivent être. Il y a un temps pour tout. Il y a des endroits où on peut discuter de certaines choses. Il y a un temps pour la justice, un temps pour une dichotomie radicale entre agresseur et victime et un besoin de séparer les deux et qu'il y ait des gens qui soient arrêtés, qui puissent plus faire ce qu'ils font parce qu'ils sont dangereux. Il y a ce temps-là et puis après, il y a un temps pour la réflexion et pour l'ambiguïté et pour des choses qui sont plus complexes et notamment la survivance de l'agresseur à l'intérieur des victimes, par exemple. C'est
La fameuse hospitalité au démon. C'est une façon cet homme-là se voit refuser la possibilité de témoigner de la violence qu'il abrite, et la violence qu'il abrite, lui, il le comprend après, mais vient du fait qu'il a subi de la violence. Et la possibilité de l'exprimer, alors qu'il dit « on est en 2024, bon sang » ou en 1314, est-ce que je peux dire ces choses-là ? Est-ce que je peux dire ces choses-là ? Est-ce que je peux aller loin dans la violence qui m'assaille parce que j'ai été assaillie ? Ça, c'est pas possible, en tout cas dans la structure qu'il rencontre. Et le fait de l'écrire, c'est... Voilà, il me semble que c'est faire un pas dans le territoire pas complètement fictionnel de votre livre, qui est un pas... comment on pourrait dire, je sais pas,
risqué
déjà. Ouais.
Bah, qui fait un peu peur, surtout quand en tant que mec et tout, quoi. Moi, je suis une position un peu délicate pour ça, parce que moi, j'ai pas de leçon à donner à personne. C'est super difficile de s'affronter à tout ça, donc je viens pas dire il y a des excès ou je sais pas quoi. Mais moi, j'aimerais bien qu'on discute aussi d'autres choses, quoi, que juste comment on fait pour dégommer, punir les gens, ou comment c'est un autre d'autres débats. Je sais pas comment dire, les choses qui m'intéressent maintenant, je commence à être un peu vieux, j'ai 46 piges, donc je suis plus, et justement comment moi je me débarrasse de la vengeance, quoi. On parlait de comment je fais pour plus avoir envie de tuer quelqu'un. Déjà,
une petite option qu'évacue votre narrateur sans effort.
Voilà, et puis et cette question des pensées intrusives, j'ai l'impression aussi que c'est très commun, très collectif, qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça. Enfin, c'est très humain d'avoir des pensées bizarres et reposer de manière très claire et très franche qu'il y a une différence radicale entre les pensées et les actes. Moi, je pense que c'est salutaire. Voilà, voilà.
On va écouter une question de Marguerite qui vous a lu et qui vous pose une question.
Bonjour le Book Club. Bonjour Constantin Alexandrakis. J'admets que j'avais l'intention de ne lire que la préface de Neige Sino, mais que je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai été happée par votre texte, relancée à chaque tentation de lâcher la lecture par votre humour, votre rage, votre détermination, par la pertinence inédite de vos réflexions sur la parentalité des personnes fragmentées et hantées par des violences dans l'enfance, et par la richesse d'une enquête minutieuse. Mais c'est la dimension littéraire et la beauté de votre langage qui m'a tenue jusqu'au bout. Sans cela, je vous aurais pas lu. Ce qui m'amène à me demander, et donc vous demander, est-ce que la métalittérature dans laquelle vous vous inscrivez, avec Neige Sino notamment, qui émane de la libération de la parole, est selon vous un passage obligé pour sortir une société entière de l'aveuglement ? Et est-ce que cette métalittérature, elle va nous emmener vers d'autres explorations littéraires ? Merci beaucoup, Constantin Alexandrakis, pour l'hospitalité aux démons et pour votre réponse.
Merci à vous, Marguerite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Marguerite ?
Bah merci, déjà, je suis bien content que vous l'ayez lu. Et puis, bah après, il y a voilà, cette question de métalittérature. Moi, c'est vrai que ce n'est pas un terme que j'utilise, du coup, je ne sais pas...
Moi, ce que je me suis dit en l'écoutant, c'était l'idée d'écrire un texte qui se relie tout le temps, qui pense son lien avec d'autres textes. C'est-à-dire que le narrateur, il est toujours en train de lire d'autres textes, toujours en train de se débattre avec des textes avec lesquels il est d'accord, pas d'accord, avec lesquels il se reconnaît, etc., etc. C'est ça que j'entends dans la question de Marguerite.
Alors moi, du coup, il y aurait d'autres... Les pistes, ce serait déjà... Il n'y a pas vraiment de genre à ce texte que j'ai fait. Je n'ai pas mis de genre particulier. Et ça me va que ce soit fluide, parce qu'à des moments, c'est un témoignage, à des moments, c'est une enquête, à des moments, c'est un
reportage,
ouais. À des moments, c'est purement romanesque. Donc, ça me va que ce soit hybride et pas très défini. Donc, peut-être que ça, c'est un espèce d'état méta. Je ne sais pas. Et après, ça me fait penser à un truc, c'est que je dis sur le texte de Flavie Flamand, il y a un moment... où Flavie Flamand, elle vient dire des choses où on s'en fout de la littérature, quoi. C'est pas, il y a un moment où on lâche l'affaire et ce qui compte, c'est que ça avance et qu'on dise des choses. Et du coup, c'est peut-être ce, on s'en fout de la littérature qui fait un truc méta. C'est-à-dire que, et moi, ça me va aussi. C'est-à-dire que je me sens pas m'inscrire, enfin, j'ai pas fait des études de littérature et tout ça. Du coup, je suis content que ce soit reconnu, que c'est une œuvre d'art, moi, c'est ce que je fais, mais par contre, j'ai pas envie d'être dans une petite boîte, ou je sais pas comment dire, là, je sais plus. En plus, je vois, vous.
Bah ouais, parce que je suis maître des horloges ici, que c'est mon taf de faire avancer le book club qui continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, on vous retrouve Diaty Diallo. Vous étiez ces dernières semaines en résidence dans le Book Club. Bonjour Diaty.
Bonjour Marie.
Et votre travail, c'était de sortir un livre en fonction de l'actualité. Quel livre vous avez sorti et pourquoi cette semaine ?
Alors, face à la profusion d'articles à propos de l'école en miettes, clairement, donc enseignante mise au placard, disparition de la part collective du Pass Culture, capture d'une élève par des gendarmes, éducation à la vie affective et sexuelle molle, l'éducation, hein, pas le reste, c'était déjà pas fou, mais là j'arrive plus à comprendre ce qu'on essaie de dire aux élèves. Alors face à ça, j'ai eu envie de parler, de sortir, de changer. Méthode d'Édouard Louis, qui n'est pas un livre à proprement parler sur l'école, mais sur ce que le système huilé de la reproduction sociale fait et fait faire au corps des pauvres, système contre lequel l'école pourrait précisément lutter, mais n'y est pas vraiment encouragée. Par exemple, le Pass Culture en ce moment.
Alors le Pass Culture, on avait consacré une chronique de Nicole Fulser à ce sujet, on le rappelle rapidement, ça permet à des jeunes d'accéder à des activités culturelles grâce à une somme qui leur est versée chaque année. C'est un dispositif qui permet également aux enseignants de financer des sorties ou de faire venir des intervenants ou intervenantes en classe grâce à cette part collective, une enveloppe calculée sur le nombre d'élèves Diaty.
Voilà, exactement. Alors, c'était peut-être une rustine qui pouvait pas se substituer de toutes les manières à du financement pérenne, mais ça permettait au moins d'accompagner les profs motivés à mettre de l'art dans la vie de leurs élèves, en même temps qu'une façon d'injecter de l'argent public dans les caisses des librairies et cinémas indépendants, par exemple. Je vais vous lire un extrait du livre d'Édouard Louis dans lequel il parle de la façon dont l'enfant qu'il était et sur lequel il pose maintenant un regard critique, avait d'abord recherché par l'école le moyen de s'émanciper d'un milieu violent à son égard. Au collège, j'essayais tout. Je m'inscrivais à tous les clubs et toutes les associations. Je mettais toutes mes forces et tout mon temps dans ces associations pour ne pas être seule pendant les récréations et les pauses du déjeuner. Mais je le faisais aussi et surtout à cause de ce sentiment vague qu'à l'intérieur d'un de ces ateliers, je pourrais trouver une vocation ou me découvrir un talent qui m'aurait permis de partir, de vivre une autre vie, de devenir riche et puissant et donc de réussir ma vengeance. Et un peu plus loin, il écrit, il continue. Surtout, je me suis rendu compte que je ne ressemblais pas aux autres au lycée. Ils n'avaient pas grandi dans le même monde que nous, et à travers eux, j'ai découvert non pas mon appartenance de classe, puisqu'au fond, j'en avais toujours été conscient, mais plutôt que cette appartenance, ce que cette appartenance signifiait réellement, concrètement. En les regardant, j'ai compris soudain que ma mère n'avait pas étudié, qu'elle écorchait les mots quand elle parlait, qu'en 14 ans de vie commune, je ne l'avais jamais vu tenir un livre dans ses mains. Bref, s'attaquer à la présence de la culture à l'école, c'est laisser le soin aux élites d'en garder les clés. C'est renforcer la sensation d'infériorité des plus précaires en entretenant un classisme systémique, si je puis dire. De l'autre côté, garder la culture au plus près, au plus proche même des établissements, c'est faire en sorte que l'école soit autre chose qu'un espace où on corrige le français des enfants et leur manière de se vêtir, par exemple. C'est pouvoir donner très tôt le droit aux élèves d'aimer ou pas quelque chose et d'apprendre à dire pourquoi.
Alors la disparition de cette fameuse part collective va agir comme une coupe budgétaire qui ne dit pas son nom pour un secteur, culture et l'école, qui sont déjà fragilisés, Diaty.
Oui, exactement, et ça donne l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et si c'était que ça. Mais là, en ce moment, on a des hiérarchies qui mettent au placard des enseignantes, donc, qui y croient pourtant, tentent des alternatives. On a des gendarmes qui enlèvent les enfants directement dans leur collège.
Est-ce que là, vous faites référence à Nado, une élève de 14 ans que les gendarmes sont venus chercher dans l'enceinte de son établissement afin de l'expulser vers la Belgique où sa famille avait déposé une première demande d'asile ?
Oui, c'est bien ça. Alors, même qu'une circulaire de 2013 interdit d'aller capturer un enfant dans son école, quand bien même sa famille est en situation irrégulière. Une école, ça devrait être un havre de paix, pas l'extension d'un centre de rétention administrative. Ça me rappelle le cas de Leonarda, d'ailleurs, une élève arrêtée puis renvoyée au Kosovo à l'occasion d'une sortie scolaire en 2013. Ce monde, on dirait un peu une longue journée sans fin. Les mêmes humiliations, les mêmes violences racistes, sexistes, classistes. Je vais vous lire un autre extrait de Changer Méthode dans lequel Édouard Louis parle de l'insulte avec un I majuscule qui lui a été faite depuis son enfance. PD. J'ai compris à 5 ou 6 ans que ce mot allait me définir et qu'il allait m'accompagner pour le reste de mon existence. Ce que tu ne sais pas non plus, c'est que l'insulte me rendait insupportable tout le reste. La pauvreté, notre mode de vie, le racisme permanent du village. Comme si l'exclusion me forçait à inventer mon propre système de valeurs. Quand ma mère, le soir, nous disait qu'il n'y avait plus rien à manger, faute d'argent, la faim était encore plus dure à cause de l'insulte. Quand il n'y avait plus assez de bois pour chauffer la maison, je souffrais plus violemment du froid que les autres à cause de l'insulte. Quand j'entendais les femmes sur la place de la mairie ou à la boulangerie qui s'exclamaient « Il y a trop d'étrangers en France, on ne voit plus que des noirs partout », je les méprisais et je me sentais spontanément du côté de ceux qu'elles voulaient opprimer et détruire.
Et au début de cette chronique, vous parliez aussi de l'EVARS, une proposition d'Elisabeth Borne pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, considérée comme frileuse par de nombreux enseignants et enseignantes.
Oui, frileuse, c'est vraiment le terme. Et pourtant, comme autant des ABCD de l'égalité proposées par Najat Vallaud-Belkacem en 2014, il y a donc plus de 10 ans, ça provoque un tollé du côté des sphères conservatrices et réactionnaires. Et moi, je me pose cette question, quand est-ce qu'on va comprendre enfin qu'il s'agit là de questions essentielles dans un monde où les taux de violence faites aux femmes, aux personnes trans, aux personnes queer, aux enfants sont en hausse permanente, que ce monde est une machine à produire des petits agresseurs en série et de fait des petites agressées. Heureusement, les syndicats enseignants ont réussi à amender le programme initialement proposé afin de réintégrer des questions relatives au LGBTQIA+, notamment. C'est pas idéal, mais c'est mieux. Je vous lis un dernier extrait de Changer Méthode, donc le livre d'Edouard Louis, dans lequel il décrit une scène bien connue de génération de collégiennes qui fait écho à ce que je viens de dire. La scène était toujours la même. Deux personnes étaient choisies pour constituer deux équipes qui allaient devoir s'affronter. Le groupe de ceux qui n'avaient pas été choisis se rétrécissait, les corps autour de moi disparaissaient. Souvent, quand je rejoignais le groupe qui avait été forcé de me prendre, quelqu'un chuchotait « On a une pédale dans l'équipe, on est mort, on va perdre ». L'adulte qui nous surveillait faisait comme s'il n'avait pas entendu.
Et c'est sur ces mots d'Edouard Louis qu'on va se quitter, Diati Diallo, et que vous terminez la résidence au Book Club.
Et oui, Marie Richeux, j'aurais aimé une chronique qui parle du retour du soleil, mais ce monde nous donne du fil à retordre. En tout cas, je voulais en profiter pour dire merci à l'équipe du Book Club d'ouvrir tous les jours ce studio où peuvent circuler ces regards critiques sur le monde. Je sais, Caron me l'a dit, que les profs font écouter vos interviews d'artistes à leurs élèves. Et oui, et oui, pour préparer les rencontres. Alors, à l'heure de la privatisation des médias, du rachat des maisons d'édition, etc., etc., c'est précieux de vous savoir encore là.
Merci beaucoup d'avoir assuré cette super résidence dans le Book Club Diati Diallo. On pourra réécouter toutes vos lectures d'actualité sur franceculture.fr. Et un grand merci à vous aussi, Constantin Alexandrakis. Le livre dont nous avons discuté aujourd'hui s'appelle « L'hospitalité aux démons » et il a paru aux éditions Verticales.